donne la parole pour la dernière intervention de ce soir à Claude Imbert, philosophe familière depuis longtemps non seulement de l'œuvre de Lévi-Strauss mais aussi de l'anthropologie et qui va nous parler d'un moment épistémologique, la contemplation de quelques fleurs sauvages quelque part du côté de la frontière luxembourgeoise au début de mai 1940. Les lecteurs de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss ont reconnu l'origine de la citation.
Merci. J'ai donné un titre qui devait surprendre. Croyez bien que c'est volontaire et je vais essayer de m'en expliquer. Dans l'introduction aux 6 leçons sur le son et le sens de Jacobson, Lévi-Strauss évoque comment la linguistique structurale, mais en fait il s'agit de la phonologie, précision récurrente dont Lévi-Strauss a pris soin lui-même, et les conversations avec le linguiste russe eurent la vertu d'un révélateur. Je cite, « J'allais pouvoir cristalliser un corps d'idées cohérentes, des rêveries inspirées par la contemplation de quelques fleurs sauvages quelque part du côté de la frontière luxembourgeoise au début de mai 1940, et des sentiments ambigus, mêlés d'enthousiasme et d'exaspération, qu'un peu plus tard, avait éveillé en moi la lecture des catégories matrimoniales et relations de proximité dans la Chine ancienne de Marcel Granet, en raison d'une part de la tentative qui s'y manifestait pour constituer des faits apparemment arbitraires en système, d'autre part à cause des résultats d'une complication improbable auquel cette tentative aboutissait. » Pardonnez-moi, ça sera la seule longue lecture et je vous dirai dans un instant pourquoi j'ai cru nécessaire de la faire. Entre les deux, en effet, la petite fleur sauvage et la mise en ordre de ce qui avait été initié par Granet, le pas est grand. C'est donc tout un programme épistémologique qui est donné ici, qui pour l'instant ne donne rien de son... enracinement ethnographique, ce qui m'autorise à considérer ces moments épistémologiques que Lévi-Strauss lui-même a tirés hors de leur contexte. Ce même moment, pourtant, mai 40, quelque part dans l'est de la France, est encore évoqué dans un beaucoup plus récent interview du début des années 2000, où l'on saura qu'il s'agissait de fleurs des champs tout à fait ordinaires, quelques pissenlits, accrochant la lumière rasante du soir, dans ces interminables fins d'après-midi pour ceux qui devaient monter la garde et servir d'informateur au long de la ligne Maginot. On l'entendra donc aussi comme un sursaut dans un moment évidemment traversé par l'absurde de la situation et la fuite du réel. Écrit en 1976, cette introduction à Jacobson, après les mythologiques, après la deuxième édition des structures élémentaires de la parenté et les mises au point de la préface, et après la voix des masques, il m'a fallu donc vous lire tout au long un texte qui donne en pointillé un parcours épistémologique sur lequel Lévi-Strauss s'est relativement peu ouvert et même rarement ouvert. Il va nous détourner d'un contresens sur le rôle de la phonologie, qui a été une occasion de cristallisation, mais nullement donnée comme un paradigme et une table analytique définitive dans la citation que je viens de vous faire. Et d'autre part, il éclaire la nature du structuralisme, puisqu'il est rapporté à cette perception incoative d'une quelques fleurs des champs, et il le situe donc dans une longue chaîne de différentes transformations qui en donnent à chaque fois une meilleure intelligence jusqu'à ce que la référence à la phonologie ait disparu dans les derniers textes et parfois le structuralisme lui-même. En suivant cette ligne que je vais baliser de quelques exemples, je souhaite faire disparaître le porte-à-faux de débats qui ont encombré la scène médiatique plutôt que philosophique, puisque cela s'est passé dans des revues, au cours des années 60, où on voyait opposer d'un côté des catégories enserrées dans des énonciations phénoménologiques et d'autre part des structures dont la genèse à partir de cet initium perceptif n'avait pas été mise en avant par Lévi-Strauss. On évitera aussi, en suivant cette ligne, ces va-et-vient tantôt dans Lévi-Strauss, tantôt chez ses commentateurs agressifs philosophes, où l'on voit d'un côté parfois dénoncer la philosophie, même par Lévi-Strauss, parce qu'il est anthropologue, mais si singulier anthropologue qu'on l'accusera, les anthropologues, d'être trop philosophe. Donc, trop philosophe pour les uns, pour les anthropologues, mauvais philosophe pour d'autres, puisqu'il était le traître par excellence, celui qui avait mis en cause la structure d'énonciation qui était la ligne normative de l'énonciation philosophique. Ce que l'on fait d'ailleurs, ces faux débats, on le fait le plus souvent en traquant ici et là quelques propos, souvent ironiques ou légitimement agacés, de son auteur. Et je rangerai du côté de l'ironie et de l'agacement ce célèbre oxymore, transcendantalisme dans son sujet, par quoi Lévi-Strauss a mis fin à la question. Certes, la notion de transcendantalisme est réélaborée dans La voix des masques, j'en dirai éventuellement un mot tout à l'heure, mais je considère que ce transcendantalisme sans sujet était un de ces oxymores qui devait clore une discussion évidemment mal posée, puisqu'elle se situe à des niveaux cognitifs tout à fait différents. D'une part, un souci d'analyse catégoriale qui assurerait la légitimité philosophique des énoncés ramenés à une structure d'expérience, et d'autre part, une investigation cognitive faite pour décadrer notre propre sensorialité et lui redonner une générativité que, prise dans cette longue histoire phénoménologique, elle avait définitivement perdue. Voilà le schème de ce que je voudrais dire. Bon. Ce souvenir récurrent donc de ces petites fleurs saisies un soir sur la ligne Maginot apparaît de nouveau, mais de manière voilée, dans les documents, dans le titre et dans les documents annexes de la Pensée sauvage, qui en fut le premier dépliement. Et ce que je voudrais essayer de suggérer, comme le temps sera limité, je préfère donner des repères, c'est que tout le travail de Lévi-Strauss a été de faire apparaître des plans où ce qui est toujours inconscient, non dissible, non explicitable, des plans symboliques ou non pas n'importe quoi, mais un système sensoriel trouvera sa norme et son explicitation. Bien, j'ai parlé de moment épistémologique, qu'on m'accorde ce terme, tout simplement imité du moment ethnographique au sens de Marilyn Strazern. Vous savez que cet anthropologue illustre ainsi l'instant frappant d'un terrain dont l'explicitation entra toute l'œuvre de l'ethnographe et dont les variantes seront identifiées dans d'autres expériences développées dans des contextes de plus en plus, plus intégrants. La question est, quelle était donc l'opération ici entrevue, mais qui a eu besoin de la médiation de trickster presque, de la médiation de la linguistique, de la phonologie structurale pour pouvoir jouer de lui-même sur des textes ethnographiques. En fait, l'opération ici entrevue et que Lévi-Strauss rappelle en 1974 ne prend tout son sens que par les étapes au cours desquelles elle a été élaborée. Mais je reviens quand même à ce contexte de 1938. Et d'une part, en faisant allusion à l'éclairage qu'avait apporté Granet et cependant avec beaucoup trop de complexité au jugement de Lévi-Strauss, on voit déjà deux questions qui se profilent à l'intérieur de ce petit texte. D'une part, trouver une simplification des complications de Granet, il doit y avoir un chemin plus direct, et d'autre part, ce qui est une constante, me semble-t-il, des travaux de Lévi-Strauss, transformer une formulation négative en une formulation positive. Interdiction, prohibition de l'inceste, certes, mais c'est une formulation négative. Trouver la formulation positive correspondante. Et pour trouver la formulation positive correspondante, il faudra l'indexer sur du réel et du réel médiatisé par ce qui filtre ce réel pour toute conscience, qu'elle soit occidentale ou non occidentale, c'est-à-dire un système symbolique. Si bien que derrière ce désir de faire disparaître ces obligations opaques et négatives qui se présentent comme des modalités d'obligation et en plus comme un interdit, on voit reprofiler de nouveau ce qui avait suscité d'abord la réflexion de Lévi-Strauss, lecteur de Rousseau, mais aussi toute l'histoire de la sociologie française. Vous savez que le contrat social doit poser la question « Nul n'est assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir ». Eh bien, toute l'école sociologique française s'est efforcée sans doute de voir comment se transforme la force en droit, mais de dépouiller de son opacité, de son espèce de droit divin ou de droit de nature qui revenait sous la forme de ces notions d'obéissance en devoir. Il fallait comprendre, ça a été quand même le programme de toute l'école sociologique française, comment pouvait se monnayer cette obligation sociale sans passer ni par la voie du contrat, solution purement idéale, ni par un système d'injonction modale qui se répercute simplement comme des interdits. Mauss, on le sait, s'était arrêté en introduisant comme régulateur l'échange, mais néanmoins, cet échange butait sur ces formules qui reprenaient les modalités d'obligation. Il faut donner, il faut accepter, il faut rendre. Et il n'est pas difficile, je crois, de montrer, je me suis essayé ailleurs, de montrer que c'était un décalque pris adossé à des textes, comme dit Mauss, de droit archaïque, un décalque des modalités kantiennes, des maximes de la morale kantienne. Il y avait donc à forcer ce dernier goulet de ne pas pouvoir penser l'obligation sociale que personne ne conteste, mais autrement que sous la forme d'un impératif de devoir. Bon. C'est ici que pour cette génération qui a été celle de Lévi-Strauss, se posait la question de la production et je pourrais être brève tellement le professeur Salins a été clair là-dessus, la production des superstructures demeurait opaque si on ne regardait pas, si on ne parvenait pas à comprendre leur genèse à partir des infrastructures. Ce qui était d'ailleurs le thème du mémoire de maîtrise, enfin l'équivalent d'un mémoire de maîtrise qui avait été soutenu par Lévi-Strauss avec Bouglet. Bouglet qui, un coup de téléphone, lui conseillera de prendre un poste de sociologie à San Paolo, et qui était aussi la question que Lévi-Strauss rappelle dans La pensée sauvage, que La pensée sauvage devait contribuer à résoudre cette question de la genèse des superstructures, mais également, je le dis en passant, la question que Merleau-Ponty avait approché dans la structure du comportement, puisque la dernière partie et le dernier chapitre conclusif porte sur cette question, comment on parvient, se produisent des structures symboliques capables de porter la vie civile. Il y a donc un souci de médiatiser les obligations sociales en les nourrissant de médiateurs nourris d'une conscience ethnographique. Pour en finir avec ce point, je rappelle que dans les années même où Lévi-Strauss préparait la pensée sauvage, en même temps, il a écrit successivement sur Mauss, sur Durkheim et sur Rousseau, et à chaque fois, la question récurrente dans les trois textes, si vous les regardez bien, Mauss développé différemment, bien sûr, Durkheim et Rousseau, la question est toujours à peu près la même, cette fois-ci, comment un philosophe, passant par la sociologie, est obligé de rencontrer des questions ethnographiques. Chez Mauss, c'est explicite, et Mauss ayant été le plus loin dans la prise de conscience, la prise de réel ethnographique, mais Rousseau en ayant formulé le programme, comme il a été déjà dit. De plus, dans les écrits de Lévi-Strauss, moment épistémologique et moment ethnographique coïncident presque toujours pour deux raisons que je rappelle. Toujours, Lévi-Strauss a tenu pour inséparable intelligibilité possible d'une relation sociale avec sa délinéation symbolique. Ce qui ne veut pas dire pleine clarté de conscience, ce qui ne veut pas dire retour à élimination de l'inconscient, non, mais le surgissement indirect à l'intérieur des systèmes symboliques de ces raisons inconscientes qui, indirectement, les explicitent et les rendent maniables et les font travailler dans une société. Bon, donc, cette nécessité de ne pas concevoir le social et ses obligations sans tenir compte des symbolismes dans lesquels il s'exprime, vous savez que c'est le cœur du reproche qui est fait à Mauss dans cette très belle introduction à Mauss que vous lisez au début de Sociologie et Anthropologie, mais aussi la raison pour laquelle Mauss, comme Moïse, est resté au seuil de la terre promise. Si l'on déplace donc ce problème de l'explicitation des obligations de superstructure vers leur genèse à partir des infrastructures, on comprendra que Lévi-Strauss est à chaque fois posé ses travaux, et de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approche des derniers écrits, comme une énigme à résoudre. Mais nous savons quel type d'énigme devait être résolue. J'ai rappelé ce point d'ancrage en 1938, et j'ai rappelé ce point d'ancrage 1938 comme le fait Lévi-Strauss, serait-ce dans il le fait dans une vue rétrospective qui a naturellement ses effets de lissage, et je dirais très certainement, c'est une stratégie très, très, très pensée de Lévi-Strauss. Mais s'il ne dit rien des étapes intermédiaires au cours desquelles le structuralisme s'est élaboré et transformé, car on peut montrer que le structuralisme des structures de la parenté qui s'appuie ou trouve en quelque sorte sa confirmation et sa légitimité parce qu'il y a une structure de groupe de transformation qui va au moins correspondre à un cas de structure de la parenté, qui est comme une garantie, et on, avec l'espérance qu'on pourrait développer des structures mathématiques pour le reste du champ qui avait été balayé ou considéré par Lévi-Strauss. C'est un premier usage du structuralisme. Vous remarquerez que ce type de structuration, de modèle mathématique a totalement disparu dans la suite, au fur et à mesure d'ailleurs que s'introduit d'abord comme une hypothèse, puis ensuite, selon une étape que je vais rappeler dans un instant, le modèle phonologique. Très vite déclaré d'ailleurs, dès 1945, des articles parus dans Word et plus tard connus en France l'ont dit, lors même qu'il soutiendrait sa thèse en 1947. Peut-être d'ailleurs une autre mathématique était-elle dans l'espérance de Lévi-Strauss, puisque c'est aussi le moment où il s'intéresse à la cybernétique, à Wiener, et voit avec, dans les textes de Wiener, la possibilité d'avoir une modélisation de certains processus mentaux qui éviterait le recours à une mathématique statistique ou probabiliste pour continuer le travail qui avait été ébauché dans les structures élémentaires de la parenté. Mais pour essayer de combler ce vide, il n'a pas dit quelles avaient été les étapes du structuralisme que l'on pourrait suivre dans la pensée sauvage, dans les mythologiques, avant son dernier état dans La Voix des masques. Avant de revenir sur ce point, j'ajoute un parallèle qui va me permettre de donner un peu plus de contenu à la situation de 1938, à cette situation épistémologique, ethnographique que j'ai citée au point de départ. Bon. Entre Lévi-Strauss et Merleau-Ponty, il y a beaucoup plus que des relations d'amitié, mais je dirais la réalité d'un problème partagé. J'en ai déjà un élément, la production des superstructures. On oublie toujours la composante marxiste des travaux de Merleau-Ponty, d'ailleurs plus attirée par l'intelligence de Trotsky que par les manœuvres staliniennes, mais elle apparaît dans toute une série d'ouvrages qui passent par « Humanisme et terreur » et par « Les aventures de la dialectique ». Donc, ce point étant vivement rappelé, très rapidement rappelé, je reviens sur la communauté d'un problème entre Merleau-Ponty et Lévi-Strauss. Quelle est cette communauté ? La défection de la perception, je dis bien, comme seuil d'intelligibilité, une fois que la perception se trouvait prise dans une armature de déclaration propositionnelle qui est exactement la définition d'une phénoménologie qui pouvoir transférer dans une apophantique, une transmutation propositionnelle, un contenu perceptif. Je dis que c'est la thèse de Merleau-Ponty, chercher à substituer à cette superstructure phénoménologique une autre expression de la perception, jusqu'à ce que, à la fin de la phénoménologie de la perception, s'apercevant d'un certain échec, c'est-à-dire l'incapacité à expliciter une expérience dans le temps et l'histoire, il faut repartir à la case zéro, et reprendre les questions telles qu'elles avaient été laissées à la fin de la structure du comportement. Et c'est ici que se noue un rapport plus serré entre Lévi-Strauss et Merleau-Ponty. Je m'appuierai de la courbe propre de Merleau-Ponty pour éclairer le cheminement de Lévi-Strauss, ou le confirmer, et en même temps pouvoir poser sur d'autres bases, pas du tout l'opposition entre une langue catégoriale phénoménologique et des structures qui jouent dans la sous-jacence de la perception et dans la sous-jacence de la langue. Faux débat, vous ne se rencontrerez jamais, mais en essayant de caractériser plus précisément l'intérêt passionné parfois qu'un philosophe a pu éprouver pour Lévi-Strauss. Et le rôle de Merleau-Ponty sera celui d'un témoin, et je l'entends en deux sens. D'abord, un témoin appelé à comparaître par la manière particulière dont lui-même s'est approprié passagèrement Saussure et Jacobson, fût-ce d'une manière pas toujours extrêmement convaincante, mais aussi comme auteur, comme on dirait en laboratoire, d'une expérience témoin faite en parallèle, dessinant comme une courbe osculatrice de celle plus ample de par le temps et la matière qui a été tracée par Lévi-Strauss. Et je le ferai, fût-ce extrêmement rapidement, dans le sentiment que la circonstance qui nous réunit, une date anniversaire, et le lieu où l'un et l'autre, Lévi-Strauss et Merleau-Ponty, ont enseigné, pouvait y insister. Et ces chemins parallèles, mais j'insisterai surtout Lévi-Strauss, bien sûr, ce sera la recherche d'une constitution cognitive primaire comme réponse apportée à la fuite du réel politique et social telle qu'elle apparaissait à la fin des années 30 et se trouvait confirmée par l'expérience de guerre, ce vide, ce vide. Alors, je vais maintenant très très simplifier l'exposé que je voudrais faire. D'une part, montrer que derrière la phonologie structurale, ce qui était intéressant, c'était une logique des qualités sensibles. Et ensuite, reprendre trois ou quatre exemples très bien connus dans l'œuvre de Lévi-Strauss, où l'on voit opérer ce mouvement d'un acte de perception-description à l'usage de structures plus complexes greffées sur une logique des qualités sensibles. Alors, je rappelle que la phonologie avait mis en évidence, thème connu, un régime d'opposition en réseau défini sur un ensemble de phonèmes en nombre variable mais fini, où les oppositions se précisent en contraste ou incompatibilité. Apparaît alors un filtre sensoriel dont il n'y a peu de doute qu'il dépend d'une capacité du système nerveux central, mais qui donne à la sensibilité une structuration, oui, propre, qui n'est pas passivité, saut dans la cire, émotion qu'il faudrait bannir, ou pure attraction régie par un principe de plaisir et douleur. On l'oublie toujours combien la sensibilité était le parent pauvre, la partie occultée des philosophies classiques. Mais il ne suffira pas d'y répondre en disant passons à la concrétude, passons au corps. Encore faut-il comprendre comment ce filtre corporel produit de la signification. Cette structuration de la sensibilité n'était pourtant pas totalement ignorée. Et il est intéressant de faire quelques rapprochements. Pour aller vite, on parlait, et ici je renvoie à quelques textes de Wittgenstein qui ont été pensés dans les années 30, même s'ils furent connus plus tard, on parlait de logique des couleurs parce qu'elle se trouvait être une production aussi claire que la phonologie de ce filtre différentiel du sensible est plutôt objectivée, plus facilement objectivée et plus facilement variée. Je rappelle que le propre d'une logique des couleurs, en prenant simplement pour exemple, a cet avantage de produire des oppositions en groupes finis, des compatibilités et des incompatibilités, d'avoir une propriété d'interfoliation, c'est-à-dire qu'entre deux oppositions, on peut toujours insérer une troisième opposition, et d'avoir des degrés, du plus ou du moins, c'est-à-dire un comparatif. Alors vous voyez quelle richesse logique apporte cette logique du sensible qui n'apparaît jamais comme telle, mais qui peut être investie dans la peinture, qui peut être investie dans une phonologie ou qui peut être investie dans un autre système sensoriel. Bon, alors l'hypothèse que je fais est que c'est sur ce schème-là, sous-jacent à la phonologie, que Lévi-Strauss a travaillé après la pensée sauvage, qui est encore très, très attaché à des notions de catégorie extirpées du contexte propositionnel, mais insuffisantes par elles-mêmes, pour produire la générativité d'une logique des couleurs. Et c'est cela qui a déterminé le travail des mythologiques. Je vais à l'essentiel. Les mythologiques font souvent état de transformation par opposition. Et Lévi-Strauss se plaint à plusieurs reprises, je n'ai pas la liste des textes ici, de ce que cette opposition ne dit pas tout ce qu'il y aurait à dire, ce qui fait qu'une opposition peut être une transformation. Et je crois que c'est seulement dans La Voix des masques, lorsque lui-même dit « je change de méthode », je change de méthode, où ce régime d'opposition se trouve explicité dans un registre beaucoup plus divers que ce que permet une langue, puisqu'il y a non seulement des symétries qui pouvaient être repérées dans les mythes, mais des antisymétries, quelque chose qui n'arrivait pas à se dire en termes d'opposition, des contrastes extrêmement multipliés de textures, de couleurs, mais aussi des différences topologiques entre la ronde bosse et le creux. Et tout cela est repris sous un système d'opposition d'une logique des qualités qui joue à plein de manière à pouvoir utiliser ces masques à la fois comme une indexation et comme un lieu de développement plus clair de ce qui avait été décrit dans les mythologiques. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je reprendrais exactement la même chose en reprenant la manière dont sont successivement décrits des couchers de soleil. Il y en a trois ou quatre opérables dans Lévi-Strauss, et qui sont comme le test de ce que l'on peut dire et de ce que l'on peut voir, et de la manière dont une énergie solaire va se transformer, une lumière va se transformer, va passer par un filtre sensoriel et redistribuer se transformer en une somme de différences. Bon. Je rappelle le fameux coucher de soleil sur le pont d'un navire qui s'achève par cette formule de Lévi-Strauss. Et si jamais je pouvais décrire de la même manière tout ce que je vais être appelé à observer, alors j'aurais bien rempli mon métier. Et la fin, cette espèce de nuit obscure dans un poste frontière où tout est devenu gris, les Indiens ont disparu et la perception n'arrive même plus à se nourrir, et où Lévi-Strauss comprend qu'il faut dépasser la limite du dégoût et reconstituer, décadrer son propre système d'appréciation sensible. Mais je passe tous ces points que j'aurais voulu développer. Par ailleurs, lorsque vous lisez les mythologiques ou les articles adjacents, vous voyez que Lévi-Strauss est toujours à la recherche d'un embranchement ou d'un réseau assez subtil pour être capable de capter tout ce régime de différence qu'aucun régime propositionnel n'est capable de saisir. Et c'est là où cherche des embranchements qui ne seraient plus des arbres, mais aussi complexes qu'un égouttoir à bouteille, ou encore l'image de la cristallographie où un filament se solidifie perpendiculaire à un autre, donc en multipliant les ramifications, ce que un système physique est capable de faire et que un système logique enchâssé dans une linéarité propositionnelle et marqué simplement par des négations est incapable de faire. Si bien que le terme est de constater que toute l'histoire de la philosophie européenne s'est orientée via le jugement vers des systèmes de décision, elle a oublié cette pompe à réel, enfin cette sensibilité qui produit de l'information et qui, dans une perspective anthropologique, est infiniment plus importante que des systèmes de décision. Je crois que la situation contemporaine le montrerait assez. Deux mots simplement pour conclure. Deux mots. Si on considère maintenant les deux derniers textes de Lévi-Strauss, Histoire de lynx, pardon, et La potière jalouse, Histoire de lynx, on pourrait dire que Histoire de lynx est le dernier épisode, le dernier état de ce dénicheur d'oiseaux qui a ramené le soleil non seulement comme prestige, comme richesse, comme ressource, mais aussi comme en quelque sorte une grammaire portative sur son éventail de plumes colorées, mémoire d'une logique des couleurs, si vous voulez. Et cette fois-ci, avec Histoire de lynx, nous sommes dans les terres du Nord, où tout est brouillé, la luminosité est brouillée, mais aussi l'apparence de lynx, qui n'est pas l'apparence de lynx, qui doit se desquamer pour que puisse apparaître un homme séduisant et porteur de tous les prestiges que pourrait avoir un chef, ce qui pourrait laisser entendre que plus la luminosité baisse, plus le brouillard est à vaincre, plus il faut multiplier les détours et les écrans pour capter quelques possibilités différentielles au travers duquel les systèmes symboliques seront solides. La potière jalouse enseigne que les poteries sont difficiles à obtenir et leur fabrication se crée de jalousie. Nous savons aussi que les poteries, outre leur utilité et tout le système de transformation topologique qui les associe à la nature féminine, les poteries recueillent sur leur flanc ces représentations dédoublées qui ont permis à Lévi-Strauss de penser à ce système de dépliement sous lequel un régime d'opposition infiniment plus riche pourrait apparaître, et nous sommes laissés au terme de ces mythologiques avec le sentiment que dans les terres de brouillard qui sont les nôtres, il faut multiplier les intermédiaires symboliques, et que ces intermédiaires symboliques qui se déposent sur des pots de poterie sont bien fragiles. Et c'est là où, en un mot, j'aurais voulu situer la rencontre, la rencontre du travail anthropologique de Lévi-Strauss et du travail philosophique, dans la mesure où, en montrant la genèse de nos systèmes symboliques, mais on peut le montrer, la genèse de nos langages, en donnant quelques indications sur la genèse de nos langages et la genèse de nos logiques et la manière dont différents langages s'exfolient, qu'on n'en a jamais assez et qu'on n'a jamais assez de formes symboliques. Lévi-Strauss avait marqué une ouverture là où les Lumières, en fixant des encyclopédies, des concepts fixes, parfois avec des possibilités d'interfoliation, comme le faisait l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, parfois un système clos et fier d'être clos, comme le système kantien, Lévi-Strauss a levé le verrou qui avait bloqué les Lumières.